fais comme... Je suis Karim Beniclev, directeur du Centre de recherche en public, parce qu'on enregistre, alors je dois recommencer un peu. Je suis très heureux de recevoir nos invités que je vais présenter brièvement l'un après l'autre. Je remercie le laboratoire, la chaire de recherche Lexum et Facile d'avoir permis l'organisation de cet événement. Je signale en passant également que le 22 octobre prochain, nous allons recevoir ici même Evgeny Morozov, qui est un penseur iconoclaste du web, et qui pourra nous donner là aussi matière à réflexion. Mais je n'en dis pas plus, je me tourne tout de suite vers nos invités que je vous présente très brièvement, et je vous présenterai la petite formule que l'on a adoptée aussi. Alors, Madame Florence Piron, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. Bienvenue, Madame Piron. Valentin Calipel, avocat et chercheur au laboratoire de cyberjustice. Madame Diane Mercier, praticienne, chercheur et consultante en transfert des connaissances, ambassadrice de l'Open Knowledge Foundation au Canada. Bienvenue. Professeur Vincent Larivière, de l'École de bibliothéconomie des sciences d'information de notre université, directeur scientifique d'Érudit également, qui a évidemment un sujet qui va être au cœur de nos discussions. Monsieur Thomas Mboa Nkoudou, qui est enseignant au Cameroun et doctorant au département d'information et de communication de l'Université Laval. Bienvenue. Et finalement, Monsieur Benoît Rochon, administrateur et chargé de projet pour Wikimedia Canada. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Alors, écoutez, afin d'assurer un échange continu entre nos invités et vous-même, ce que j'avais proposé, ce que nous avons proposé avec Karim Gentlet, c'est que chaque invité, je commencerai avec Madame Piron, dise un petit mot très court, un concept, un mot, enfin un mot c'est peut-être un peu trop court, mais un concept autour des trois thèmes qui sont établis. On commencerait par le premier, la première question, quel est l'état de la production des savoirs libres au Québec et dans la francophonie? Donc, une intervention très très courte, l'un après l'autre, et ensuite on pourra tout de suite entamer la discussion entre les conférenciers, bien entendu, les membres de la table rectangulaire, et évidemment les gens de la salle. Alors, Madame Piron, à vous de plonger. Merci.
Le concept que je vais proposer pour ce qui est de la production, enfin j'en proposais deux, court, l'injustice cognitive, c'est-à-dire le fait que la production, la visibilité de la production scientifique n'est pas la même selon la région du monde dans laquelle on travaille et la langue dans laquelle on écrit. Puis l'autre mot, et là je pense aux chercheurs du Québec, c'est quelque chose comme docilité, état de... Je ne trouvais pas le nom, mais c'est timoré. Docile et timoré, voilà.
Merci. Monsieur Valentin.
Alors, moi, d'où je parle, je pense que c'est important parce que j'ai un parcours légèrement différent dans ce panel. Je suis juriste à l'université et avocat. Et du coup, je dirais que la production du savoir libre dans mon domaine est contextuelle. Elle est très attachée à une histoire et à un contexte culturel ici au Québec.
Alors, pour moi, il y a un mot, un terme, c'est liberté d'expression. Alors, le savoir libre dépend du niveau de liberté d'expression d'une société. Et actuellement, je suis très morose.
Je vais essayer d'être bref, mais ça va être un peu difficile. Moi, mon mot, c'est concentration. En fait, je me spécialise dans la littérature scientifique, la diffusion de la littérature scientifique. Et donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que la littérature scientifique, elle est concentrée entre les mains de 5 grands éditeurs qui contrôlent tout le marché. Mm-hmm. Donc, juste peu de liberté, en conséquence.
Pour les fans de l'enregistrement, pour être vous approcher.
Oui.
On va approcher.
OK. Moi, je dirais embryonnaire et décalé, dans la mesure où la francophonie est constituée en majeure partie des pays d'Afrique. Et puis... Peut-être vous, de ce côté, vous avez l'impression que cette production évolue, mais en Afrique, c'est autre chose, ce qui tire la production vers le bas. C'est pour ça que j'ai parlé d'embryonnaire et décalé.
Mm-hmm. Mm. Très bien.
En termes de production, le contenu de savoir, oui, quand je fais ce geste de vue un petit peu dans ce milieu-là, j'ai envie de répondre à la question.
Par jour?
Oui, c'est ça, par jour, exactement.
Ah oui, voilà.
Et qui produit du contenu?
Bah, le laboratoire.
C'est vrai, c'est un festival. Parce qu'on peut produire un peu de contenu au Québec, on travaille très fort.
Merci pour la brièveté. Alors écoutez, je me tourne vers la salle tout de suite. Si jamais, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire à la lumière de la question posée, mais à la lumière aussi des quelques commentaires de nos collègues? Sinon, je retournerai vers la table rectangulaire, si je puis dire. Oui, monsieur?
C'est pour rebondir à ce que vous disiez à propos des éditeurs scientifiques. Est-ce que vous pensez que avec l'open access, ça s'en va dans le bon sens? Et qu'est-ce que vous pensez des archives, c'est-à-dire tout le savoir qui a été produit jusqu'à maintenant, qui, lui, est dans des licences qui sont fermées? Ou est-ce que ça peut être ouvert? Est-ce qu'on pourra réutiliser tout ça?
Pour répondre à la première partie par rapport à l'accès libre, tout dépend comment on le définit. Parce qu'évidemment, quand le mot est sorti, les grands éditeurs scientifiques, Elsevier, Wiley, se sont réappropriés le terme accès libre. Donc aujourd'hui, aux yeux de beaucoup de scientifiques, publier en accès libre, c'est de payer 3, 4, 5 000 $ à Elsevier pour que l'article soit en accès libre. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire au sein de la communauté scientifique, à tout le moins. Je m'intéresse à la communication savante ici, pour qu'ils agissent, disons, en bon citoyen scientifique ou en bon citoyen dans le monde de la communauté scientifique. Maintenant, au niveau des licences passées, c'est difficile un peu d'être optimiste parce qu'effectivement, les articles qui ont été publiés avec une... on donne notre copyright quand on publie avec les grands éditeurs. Donc, c'est un peu difficile de revenir en arrière à partir de ce point-là.
Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut réagir aussi aux propos des uns ou des autres ou poursuivre pour ça? Oui, M. Rochon.
J'ai en fait un projet en collaboration avec les différents éditeurs, particulièrement en anglais, mais en français, ça commence énormément. J'en ai notamment, en fait, Érudit, qui donne des libres accès aux Wikipédiens pour que les Wikipédiens puissent écrire des articles de Wikipédia et utiliser des sources scientifiques payantes.
Absolument. Oh oui, exactement. Mais on voit que c'est probablement qu'il y a une plus grande résistance chez les grands éditeurs anglo-américains dans la plupart des cas à faire ça.
Oui, ben moi je pourrais commencer à répondre dans le fond. Est-ce que je parlais de ça dans mon
topo? Oui, allez-y, bien, vous aussi, bien entendu.
Pour revenir aux chercheurs, je pense effectivement, nous on a fait une grande enquête à l'Université de Laval sur les pratiques de publication des chercheurs. Et ce qui est ressorti de façon très claire, c'est qu'au moins la moitié des répondants, qui couvraient à peu près toutes les disciplines, toutes les facultés, estimaient par exemple qu'ils étaient obligés de céder tous leurs droits aux éditeurs scientifiques, dont ceux dont parle Vincent. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils pouvaient faire autrement, et notamment mettre une licence libre, etc. Et l'autre partie, par contre, peut-être plutôt des gens en sciences sociales, je ne suis pas sûre, disaient « mais jamais je donnerai mes droits à qui que ce soit, etc. » Donc il y avait vraiment une grande différence, mais ce qui me frappe, c'est cette docilité, c'est pour ça que c'est le mot que j'ai proposé, docilité, manque d'empowerment, c'est triste à dire, parce que moi je travaille beaucoup sur le libre accès en Afrique et en Haïti, mais je me rends compte que dans nos universités, les chercheurs n'osent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déplaire aux revues, aux éditeurs. Ils ont peur que ça nuise à leur carrière. Donc, c'est l'enjeu de la professionnalisation de la recherche. On perd de vue, dans le fond, l'idéal de la science comme bien commun pour se concentrer sur la carrière, le CV, etc. Et c'est ça qui l'emporte. Et donc, ils sont mélangés dans leurs priorités. Et ils ne sont pas conscients non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, surtout en travaillant en Afrique, en Haïti. Et je me mets maintenant dans les conditions des chercheurs haïtiens et africains. C'est-à-dire que je refuse d'entrer mon IDULNIP quand je consulte ma bibliothèque. Je veux faire comme si j'étais en dehors de l'université. Et bon, je frappe des murs payants fréquemment, et je me rends compte que les gens dans les universités ne s'en rendent pas compte, parce qu'eux, ils rentrent leur édulnip, puis ils ont accès à l'article, ils ne se rendent pas compte. Donc, il y a une espèce d'aveuglement, de cécité, c'est un autre mot que je voulais donner, sur le fait que la science, l'accès est fermé. Et donc, du coup, ben, ils ne sont pas mobilisés. Nous, on lutte pour le libre accès, puis ils nous prennent pour des hurluberlus. Ou alors ils vont dire, de toute façon, et je l'ai entendu de la part, Karine, d'une chercheuse qui travaillait avec des groupes communautaires, etc., qui a fait un superbe livre. J'ai regardé le prix et l'éditeur, le livre, il se vendait 90 livres sterling, plus de 100 dollars. Je lui ai dit, mais il n'y a pas une contradiction entre travailler avec des organismes communautaires pour partager, en tout cas, pour travailler sur les rapports sciences-société, puis ensuite vendre mettre ça dans un livre que tu vas vendre fermé, etc. Elle m'a dit, oh, de toute façon, ces gens-là ne lisent pas. Donc, il y a un mépris, une condescendance de la part des chercheurs sur le fait que ça ne sert à rien de se battre pour ça, personne ne va lire en dehors des... Et donc, un manque total de vision sur le rôle de la science dans la société.
Vincent, vous l'avez...
Oui, ben, j'allais ajouter, mais bon, Florence l'a un peu abordé, là, c'est la dépendance qu'ont les chercheurs envers les revues. Et ce n'est pas une fonction de diffusion, c'est une fonction d'évaluation. Donc, on est dépendant envers les grands éditeurs, on est dépendant envers Elsevier, parce que notre évaluation en tant que jeune chercheur va être basée sur notre nombre d'articles publiés chez ces grandes revues-là. Donc, on est pris en tant que jeune chercheur, on se dit, ben là, si je décide de publier mes articles dans des revues qui ne sont pas parmi les top revues des grands éditeurs, je me fais mal, je fais mal à ma carrière. Si on est un chercheur en fin de carrière, puis on se met à faire ce move-là, donc, d'arrêter de publier chez les grands éditeurs, on peut perdre nos subventions. Donc, une dépendance en termes de carrière scientifique envers ces revues-là. Et c'est donc pas pour la diffusion, mais plutôt pour le symbolique qu'amènent ces grandes revues savantes-là.
Puis évidemment, ils ne connaissent pas du tout les archives ouvertes et les dépôts institutionnels. Ils ne savent pas qu'ils peuvent faire les deux.
Et là, il faut faire attention pour ne pas embarquer dans la deuxième question.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On mord déjà sur la deuxième question, parce que c'est très difficile de distinguer production et diffusion.
Totalement.
Et donc, c'était difficile de répondre à ces questions, mais ça pose la question de savoir est-ce que même il y a une distinction à faire.
Moi, j'en fais pas.
Dans le domaine universitaire, dès lors que c'est produit à des fins de diffusion. Et donc, quel est le médium choisi?
Moi, j'ai vu la différence. Je me suis dit, production, c'est vraiment d'interpeller les chercheurs. Alors que diffusion, j'ai plutôt interpellé les bibliothèques, les revues, ce qui est institutionnellement fait de la diffusion. C'est comme ça que j'ai essayé de répondre aux questions de Mathieu.
Est-ce que quelques réactions dans la salle? Oui, monsieur?
Un exemple peut-être un peu similaire, mais qui est collé à la culture générale. Radio-Canada a arrêté d'enregistrer des concerts classiques depuis 6 mois, mais a sous-contracté l'enregistrement de ces concerts à une société française. Et on peut revoir ces concerts-là si on paie pour le service. Mais finalement, on peut s'arranger si on a un compte à la Bibliothèque nationale. Oui. Et là, on peut avoir accès au stream, au concert. Donc finalement, on finit toujours par y arriver. Il y a toujours des moyens d'arriver à la gratuité. Mais il y a une espèce d'effritement de cette notion-là de service public et puis de facilité d'accès. Je pense que c'est à peu près là que c'est le plus grave parce qu'on a des générations montantes qui, eux, arrivent jusqu'à un certain point à accéder à la gratuité des contenus, mais il y a de larges pans de la population qui n'ont pas ces capacités-là. Comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec Framasoft est assez parlant. Oui, c'est bien de faire ça, il faut le faire, mais qui connaît les services de Framasoft? Moi, au travail, j'ai tenté de les proposer. Tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Donc, il y a un peu cet effritement-là qui fait qu'à un moment donné, on arrive à se dire, « Ah, ben il n'y a que le grand fournisseur de services, il n'y a que, par exemple, Springer pour les articles scientifiques. » Ça serait quoi le rôle, à ce moment-là, de la Bibliothèque nationale du Québec pour donner accès aux articles scientifiques qui sont payants? S'ils sont capables de le faire pour la grande culture classique, qui est plus pris en charge par Radio-Canada, par exemple, est-ce que la Bibliothèque nationale pourrait, comme ça, acheter un accès aux sources scientifiques pour les remettre au public, pour empêcher que des gens comme, je ne me rappelle plus son nom, celui qui s'est suicidé parce qu'il tentait de...
Aaron Swartz.
Oui, c'est ça, pour éviter que ce genre de choses-là arrive, parce qu'il y a vraiment un problème.
Je suis désolée pour ça, là, de demander à la Bibliothèque nationale qu'elle s'abonne à tous les grands éditeurs de ce monde-là. Ça ne règle pas le problème de la production des publications scientifiques ou non scientifiques non revisées par les pairs. C'est à juste encourager ce modèle d'affaires-là. Il y a des pays, en Belgique, je crois, qu'ils évaluent les professeurs en fonction d'un portfolio qui est à partir du dépôt universitaire. Puis c'est généralement, je pense, une bonne partie des universités en Belgique qui ont ce régime-là. Alors, je pense qu'on peut s'inspirer de d'autres expériences pour importer ça ici, s'en inspirer, parce que il faut vraiment résister. C'est terrible. Là, moi, je reçois régulièrement des invitations de la maison d'édition Sage, Et si je paye 300 $, ben l'article que je le fournis va être libre d'accès. C'est pas ça, là, le libre accès. Il faut vraiment libérer la publication. Alors, c'est ça, là, je voulais juste mentionner ça. Maintenant, pour le savoir libre, ce n'est pas seulement les publications venant des universitaires ou des académiques, c'est les publications venant des gouvernements, des organismes autres, publics, les associations internationales et autres, qui ont énormément de données, énormément de contenu et qui sont généralement difficilement accessibles. L'accessibilité, ce n'est pas seulement d'être gratuit. C'est pas ça, c'est de pouvoir réutiliser cette information-là. Les données de recherche, qui coûtent très cher à recueillir, si on ne peut pas réutiliser ces données-là par d'autres chercheurs pour économiser, en fin de compte, on va faire du surplace constamment. Je pense qu'il faut vraiment utiliser, voir ce qui se passe ailleurs et peut-être aussi innover ici pour pouvoir aller plus loin. Les universités ici à Montréal ont différents répertoires des dépôts institutionnels, mais c'est des silos encore. Il n'y a pas de normes à ce niveau-là. On n'est pas encore rendu à ce niveau-là au niveau de la maturité. Quand on va être rendu à un niveau de maturité où on établit des normes, on va pouvoir vraiment échanger les informations. Si on veut aller vers une diffusion plus sémantique, plus cognitive, il va falloir arriver à ça parce qu'on est envahi, il y a une information énorme, puis Google prend le territoire de la sémantique. Alors, il faut vraiment travailler très fort à ce niveau-là. Et puis, je pense, c'est avec les expériences, les initiatives qu'on a un peu partout, il faut être ensemble maintenant, là, faut passer à une autre étape de maturité.
M. Nkoudou, vous, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Parce que je vois que vous avez fait votre thèse, vous êtes en train de faire votre thèse sur ces sujets en Afrique francophone, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire à ce sujet.
Oui, c'est que les réalités sont différentes. Je suis d'accord avec Elka, il disait que l'accessibilité, ce n'est pas forcément la gratuité. Mais en Afrique, voyez-vous, c'est toute une autre réalité. L'accessibilité est liée à la gratuité parce que ne serait-ce que la carte de crédit en ligne, la carte Visa qu'on demande de payer pour avoir accès, même si l'article coûte seulement 1 $, nous n'avons pas cette possibilité-là. Alors face à cette barrière-là, vraiment, on ne peut pas bénéficier de tout ce qui est disponible, même si c'est à vil prix. Et puis les outils de diffusion du savoir aussi, parce que moi, je pense que nous sommes à la deuxième question déjà.
Faire des allers-retours.
Je pense que c'est mitigé au niveau de l'Afrique. Mitigé, c'est un peu flou, c'est mystifié même. Parce que d'un côté, les enseignants trouvent que publier en libre accès ou bien mettre leurs documents en libre accès, c'est se faire plagier. C'est ne pas être reconnu par la communauté internationale pour la passation des grades et tout et tout. D'un autre côté, les étudiants pensent que les travaux en libre accès sont de basse qualité. Non. Et en plus, il n'y a pas de politique vraiment par rapport aux dépôts institutionnels. En Afrique francophone, nous avons répertorié 7 sur plus de 19 pays francophones en Afrique. 7 qui fonctionnent entre guillemets. Où nous sommes sûrs que 3 fonctionnent pratiquement. Donc, face à toutes ces difficultés-là, vraiment, je pense que, je le répète toujours, nous sommes à deux, nous évoluons à 2 vitesses. Nous évoluons. Ici, c'est autre chose. La façon de travailler ici, la façon d'avoir accès aux informations, c'est simple. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, s'il faut parler vraiment de l'espace francophone, ce serait un peu biaisé de considérer le cas québécois pour essayer de l'élargir sur la francophonie.
Je rebondis à ce que vous dites, M. Nkoudou, et je me tourne vers les membres de notre panel, notre table rectangulaire. La question qui est intéressante, c'est savoir que si l'information est gratuite, elle est de basse qualité. Est-ce que Bon, ça, c'est d'après des résultats en Afrique. Est-ce qu'au Canada, au Québec, ailleurs, est-ce qu'on a, Vincent?
C'est sûr que dans le monde scientifique, il y a eu l'émergence avec tout le mouvement vers l'accès libre. Il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle des éditeurs prédateurs. Mm-hmm. Donc, il y a une partie de l'accès libre qui est effectivement de faire en sorte que ce soit l'auteur qui paie plutôt que le lecteur. Dans certains domaines, ça fonctionne assez bien. Dans certains autres, ça fonctionne plutôt mal. Et dans certains cas, c'est totalement la catastrophe. Donc, il y a ces petits éditeurs-là qui ont, dans le fond, qui acceptent n'importe quel manuscrit, au fond, tant que l'auteur est prêt à payer. Et donc, ces éditeurs-là font fortune sur le dos des pauvres académiques qui se font refuser leurs articles un peu partout et qui disent « Écoutez, il faut que je trouve un trou pour mon papier. » Et là, bon, ben, je vais donner 300, 500, 1000 $ à cet éditeur-là. Et effectivement, ça donne, de un, une mauvaise presse à l'accès libre, et de deux, bien, ça pollue, en fait, ce qu'on appelle en anglais le « scientific record », la documentation savante se retrouve à être un peu polluée de ces articles-là de basse qualité qui n'auraient jamais dû être publiés.
Alors, j'ai une petite sous-question pour vous, parce que moi, je savais qu'il y avait quelques collègues qui payaient, mais est-ce qu'ils doivent payer à partir de quoi? Est-ce que les organismes subventionnaires permettent?
Ben oui. Mais justement, dans la politique, la politique qui vient du CRSH, qui vient des trois organismes, il y a vraiment écrit que les chercheurs peuvent demander des fonds pour la publication en libre accès. Wow. Et donc, ils encouragent le système. Ça, c'est vraiment l'erreur majeure de cette politique.
On aura peut-être un point de désagrément. Il faut distinguer deux choses ici. Il faut distinguer donner 5 000 $ à Elsevier, qui est une compagnie privée, ou donner 1 200 à PLOS, qui est un organisme à but non lucratif. Oui. Donc, il y a deux choses ici. Dire que c'est tout mauvais, c'est un peu, d'une certaine façon, peut-être jouer le jeu des grands éditeurs qui veulent que ce soit monolithique, alors que ça ne l'est pas.
Et la gratuité n'est pas forcément possible. Je veux dire, il faut à un moment donné entretenir des serveurs, de la qualité de l'édition, des comités de lecture, etc. Et on peut imaginer qu'il faille subventionner ce genre de service.
Mais ce n'est pas aux auteurs de le subventionner. C'est aux sociétés savantes, c'est aux universités, c'est aux départements, c'est aux centres de recherche. Aux auteurs individuels. Sinon, on crée de nouveau un mur pour les auteurs d'Afrique. Je suis désolée.
Mais dans le cas de la plupart des revues sérieuses qui demandent des frais, les frais ne sont pas les mêmes pour un chercheur de l'Université de Montréal et pour un chercheur africain. Donc, il y a effectivement une modulation des frais. Dans le cas de PLOS, par exemple, si vous êtes un étudiant, vous allez payer 25 ou 50 $ Donc, les frais sont modulables de façon à ne à pas... Je ne dis pas que le système est parfait, mais je dis que ces mécanismes-là existent pour essayer de faire en sorte que, justement, il n'y a pas trop de barrières.
Oui, mais je ne suis quand même pas d'accord. Et c'est, dans le fond, si on regarde ça du point de vue des contribuables, c'est quand même, la recherche a déjà été financée. En tout cas, il y a vraiment...
Je suis tout à fait d'accord que la recherche financée doit être gratuite. Mais là, on embarque dans la deuxième question. On peut peut-être y aller si on veut.
Mais pour revenir à l'Afrique et au Québec, sur la question de la basse qualité, la place de Wikipédia est vraiment étonnante là-dedans. C'est que tout le monde... utilise Wikipédia, se fie sur Wikipédia pour amorcer une recherche, évidemment, pas pour la finir, là. Et en même temps, les profs d'université déconseillent à leurs étudiants, etc., y compris en Afrique, alors que, je veux dire, c'est extraordinaire pour les étudiants africains comme accès à la connaissance. Mais les profs vont décourager les étudiants, même en Afrique. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que là, on part dans une espèce de malentendu monumental.
Justement, Wikipédia, moi, je pense qu'elle existe pas pour le peuple, elle est écrite justement en réponse à tout ce que vous êtes en train de dire depuis en 285 langues gratuites, accessibles. C'est vrai qu'il y a des serveurs, comme le disait Valentin, qu'il y a des serveurs à payer, etc. Mais il y a une relation lecteur-contributeur-utilisateur-donateur qui est un modèle unique, puis tout le monde annonçait la mort de Wikipédia avant même sa naissance. Alors, c'est quand même assez exceptionnel. Puis c'est vrai que je suis très interpellé par votre question. La gratuité, est-ce que ça veut dire nécessairement la médiocrité? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais c'est vrai que ça peut être critiqué, Wikipédia peut être critiqué comme Britannica,
Parce que quand M. Nkoudou disait ça, je pensais effectivement spontanément à Wikipédia, je me disais que les étudiants africains, comme les autres, aussi d'ailleurs, étaient de grands utilisateurs de
Oui, bien sûr, je dis que c'est une idée qui court dans le milieu étudiantin. Ouais, ouais. Donc, quand un document est libre et gratuit, vraiment, c'est sûr qu'il n'est pas de...
Avec une exception peut-être pour...
ça me fait penser rapidement à une société savante de laquelle je suis malheureusement membre qui a décidé cette année d'augmenter ses frais pour la conférence en justifiant que si les frais étaient trop bas, les gens trouveraient que la conférence n'est pas assez sérieuse. Donc, on a décidé d'avoir des frais élevés pour avoir l'air d'une grande société savante, pathétique.
on a déjà
je constate qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dans le milieu académique. Oui, oui. Beaucoup de mauvaises informations, puis il faut continuer à avoir notre bâton de missionnaire, là, parce que c'est...
Oui, absolument. Je note, je ne veux pas rester sur l'université seulement, mais effectivement que les jeunes collègues, les professeurs adjoints, en général, ne savent pas du tout comment ça marche. Alors, sont souvent parfois, enfin pas tous évidemment, mais sont parfois, et puis on remarque les plus vieux aussi des fois, sont parfois victimes. Alors avant de passer à Valentin, je vais demander à Mathieu qui voulait intervenir.
Oui, je vais juste demander aux participants de la salle si vous pouviez faire une contribution de 100$ pour donner un peu plus de gaieté à l'événement.
C'est effectivement, oui, exact.
On a fait des dons, assez d'informations qui étaient
besoin. Excellent.
Valentin?
Oui, non, parce que le dernier point que tu as avancé est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne connaissent pas véritablement les droits qui sont attachés à leur production littéraire et artistique. En l'occurrence, leurs écrits. Je pense qu'un professeur d'université en droit est entièrement propriétaire de ce qu'il produit. Il ne doit rien à l'Université de Montréal. Il pourrait décider de le publier n'importe où. Et dans d'autres types de savoirs qui, encore une fois, doivent être accessibles à tous, et je pense à au droit, puisque nul n'est censé ignorer la loi, on devrait, le gouvernement, les tribunaux, etc., et dans une certaine mesure la doctrine, c'est-à-dire l'étude de ces lois et de ces décisions, devrait être rendue accessible à tous. Mais au Canada, par exemple, et c'est pour ça que moi j'avais utilisé le mot contextuel, c'est que la licence qui protège ces différents documents, ces différentes productions, est celle de la couronne, et donc la couronne d'Angleterre. Et finalement, c'est historique, donc ça explique pourquoi est-ce que c'est la couronne qui est la licence, mais c'est aussi un moyen de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui et comment est-ce que cette licence a une incidence sur la façon dont on peut faire circuler l'information comme le droit, l'information comme les décisions de justice, etc. Et eh bien, ça a une incidence parce qu'à une certaine époque, on a confié à certains organismes la liberté de republier ces différentes décisions. Et aujourd'hui, ça peut avoir des limites pour d'autres organismes qui voudraient se présenter et publier ce genre de contenu. Et donc, le droit, en l'occurrence la propriété intellectuelle, est un enjeu majeur. Et c'est important d'éduquer les universitaires, les gens à l'origine de la production du savoir, de leurs droits sur ces questions. Ça devrait en faire partie.
Les universitaires et les autres, effectivement.
Et là, je pense que ce n'est pas juste une question d'éducation. C'est vraiment, je veux dire, vous avez cité l'exemple de l'Université de Liège. Quand le libre accès fait partie de l'évaluation des chercheurs, les chercheurs s'éduquent très, très vite. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment les politiques des universités qui vont faire la différence. Là, il y a les CRSH, le FQRS... Le FRQ
oui,
va faire sa politique de libre accès cette année. Mmh. On a eu celle des 3 organismes fédéraux. Maintenant, les universités commencent à bouger, à vraiment faire plus que simplement créer des dépôts institutionnels. Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à toucher l'enjeu professionnel. Si le libre accès est un avantage professionnel, tous les chercheurs ils vont comprendre très, très vite. Donc, ce n'est pas juste l'éducation du missionnariat, là.
Il faut éduquer
c'est de la politique.
Et ça prend des chiffres forts. Depuis une dizaine d'années, on répète, nous, aux chercheurs, que les articles en libre accès reçoivent davantage de citations. Donc, ils sont davantage visibles. Donc, c'est un immense incitatif pour les chercheurs. Maintenant, le taux... Parce que là, on peut entrer dans la question 2.
Allez, plongeons.
Je me retiens depuis tantôt. Oui,
oui. Alors, est-ce que vous voulez que je recommence la table ou vous voulez dire que on commence avec vous, Vincent?
On continue. Bon, moi, j'avais une seule chose à dire, c'est 50% pour la question 2. 50% pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a 50% des articles scientifiques qui sont disponibles en accès libre pour l'année 2013.
En accès vraiment libre. Là,
ouais. En accès vraiment libre. Et ça, maintenant, ça prend plein de formes. La forme principale, c'est quoi? C'est l'auto-archivage. C'est le fait qu'un professeur, une fois que l'article il est publié dans la revue du grand éditeur, c'est ça que c'est un élément important de l'éducation qu'il faut faire aux chercheurs. Même si vous avez publié avec une revue d'Elsevier, vous pouvez prendre votre article et le déposer sur votre site web dans sa version acceptée finale. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre la version avec la mise en forme de la revue, donc qui est identique avec les pages, etc. Mais vous pouvez mettre le contenu. Elsevier, Wiley, Springer, tous ces grands méchants vous permettent de faire ça. Et donc, la forme principale selon laquelle l'accès libre prend... la forme principale de l'accès libre, en fait, c'est cet auto-archivage-là qui prend plein de formes, le site web, le dépôt institutionnel, etc. Donc, 1 sur 2 en 2013. Donc, Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est évidemment pas la note de passage, mais c'est clairement une augmentation par rapport à ce qu'on voyait. Voilà.
Alors, je suis à la deuxième question, à ce moment-là, puisqu'on vient de plonger grâce à Vincent, et je me tourne vers Florence pour aborder ce deuxième point.
Oui, alors, pour continuer sur la... Enfin, il y a des grands combats, le combat des dépôts institutionnels. Il y en a dans la plupart des universités québécoises. Nous, à Laval, on est la dernière université à créer notre dépôt institutionnel pour les chercheurs, parce que pour les thèses, mémoire, il existe déjà. Mais ils sont souvent vides. Encore une fois, pourquoi? Parce que les chercheurs ne voient pas de raison. Et Vincent, tu dis que c'est un bon argument de dire aux chercheurs la visibilité, etc. Mais il y en a qui s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est la ligne dans le CV. Le reste, ils confient ça à la revue. Ça ne les intéresse plus une fois que c'est publié. L'idée qu'on est responsable de la vie de notre article et de la diffusion du savoir, en tout cas moi j'ai fait un peu sur le plan épistémologique, l'épistémologie sociale et politique, c'est pas dans la conception du métier de chercheur. Donc je dis, il y a des grands dossiers, puis il y a des petites victoires. Comme moi aujourd'hui, j'ai réussi à faire accepter à un éditeur québécois que mon chapitre dans le livre soit sous licence CC BY. Les autres ne le seront pas, personne ne posait la question de ça, mais moi j'ai dit je le veux. Et j'ai réussi à convaincre les éditeurs du livre de se battre pour que... Donc c'est une petite victoire. Et là maintenant, tout, n'importe où je publie, que ce soit commercial, presse universitaire, etc., je me bats pour ça.
Pour la licence, parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris.
Licence Creative Commons, c'est-à-dire que c'est un moyen de protéger mes droits d'auteur. Je ne cède pas mes droits à l'éditeur. Mais je donne à l'éditeur, comme je mets une licence CC BY, donc il peut l'exploiter commercialement mon texte, il est tout à fait légitime de prendre mon texte et de vendre son livre ensuite. Mais moi, je peux aller mettre une copie de mon texte en accès libre, ou je peux faire un livre moi-même en rediffusant mon texte, etc. Donc tout le monde est content avec cette licence-là. Et c'est ce qu'on réussit à faire comprendre. Donc, grand combat, petite bataille, il ne faut pas lâcher là-dessus. Alors, c'est pour mettre un petit peu de... Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'on a lancé un livre sur justement la science fermée. On veut recueillir des témoignages de gens du Nord et du Sud qui se frappent à des murs payants. Donc on va diffuser l'appel de texte là, pour réveiller un petit peu les chercheurs du Nord. Peut-être pour faire un petit peu de polémique, parce que là on est tous un peu du même avis, on pourrait parler d'érudits. Érudits qui me posent de gros problèmes, de très gros problèmes. Puisque Érudit demande... Combien il demande aux revues pour être sur Érudit?
Je n'ai pas les chiffres sur les montants.
Il demande $5,000 à peu près. Et donc les revues qui sont financées par le Fonds de recherche du Québec, qui reçoivent une subvention, sont obligées de redonner ensuite à Érudit $5,000.
Pour maintenir l'infrastructure, sinon...
Le problème, c'est qu'il y a des revues qui viennent de perdre leur subvention. Il y a un article dans Le Devoir là-dessus. Alors, elles ont perdu leur subvention et elles vont devoir perdre... Ils ne pourront plus payer leur présence sur le web à Érudit, ça n'a aucun sens. Pour moi, là, c'est un quasi-racket. Alors que nous, on a décidé d'aller plutôt vers revues.org, qui a un financement public et qui, les revues ne payent pas quand elles sont acceptées sur la plateforme, elles ne payent rien. Parce que le financement est
par
public.
L'État, ce que Érudit n'a pas, il faut faire attention sur qui on tire en ce moment. On ne peut pas tirer sur Érudit quand Érudit n'a pas le financement de l'État de revues.org en France. Donc, il faut que tu viennes avec moi au front, là.
Absolument. Absolument. Érudit doit se battre pour obtenir un financement public parce que c'est un service public.
On est d'accord.
Mais faire payer $5,000 à des revues qui n'ont plus de financement, pour moi, là, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Très bien. Alors, on pourra revenir là-dessus. Je crois que Benoît avait quelque chose à dire.
J'ai plusieurs choses à dire. En fait, Florence, deux choses que vous avez mentionnées, mais en fait, tout le monde, un peu par rapport aux universitaires, aux professeurs plutôt de l'université qui découragent l'utilisation de la démarche par la part de Wikipédia. Dans ce cas-ci, mais de moins en moins, heureusement, même que les professeurs encouragent la création de contenu plutôt que de faire des travaux sur du papier qui va être adapté finalement. C'est qu'ils vont juger de plus en plus, on sait à l'université de Chicoutimi, à l'université du Québec en Ottawa, à l'université Laval, je pense qu'il y a même des initiatives, à l'université Ouagadougou. Il y a des choses qui sont organisées également pour la création de contenu. Donc de moins en moins, évidemment, Wikipédia devient de plus en plus. Crédible, mais en tout cas de plus en plus menu. Et puis, les professeurs, sans décourager, sans encourager, sont de plus en plus neutres, et j'ose espérer que ça va marcher la création de contenu et même l'utilisation. Parce qu'évidemment, Wikipédia, c'est comme ressource, ça, j'ai oublié de mentionner d'aller voir en bas et de demander l'utilisation des sources, puis le croisement aussi des sources. Donc, il y a peut-être un peu d'éducation à faire en travers ces niveaux.
Mais la perception change beaucoup. La perception change beaucoup parce que ce qu'on voit, c'est que Wikipédia est de plus en plus cité dans les articles scientifiques. Donc, mais ça montre, moi, ce que je veux dire, c'est que la perception change. Les gens disent l'information qui est là, elle est de bonne qualité, donc je la cite dans un article, ça va.
Donc, c'est une source, c'est une bibliographie.
Oui, exactement. Mais aux yeux de tout le monde, ça devient une source.
Puis par rapport à la diffusion du contenu,
poursuit peut-être le petit tour de table avant de redonner la parole à Valentin.
Mais juste sur Wikipédia, pour dire que j'ai lu un article très intéressant qui disait que le modèle de Wikipédia pourrait inspirer l'écriture scientifique. C'est-à-dire qu'il y ait, pour chaque thème, dans le fond, il y a un article et que les chercheurs, au lieu de publier des articles à leur tour, viennent constamment enrichir l'article comme un palimpseste perpétuel. Donc c'est l'esprit Wikipédia.
Malheureusement, il y a 12 projets pour Wikimedia, avec 12 projets, puis Wikipédia prend toute la place, c'est pas clair. Mais il y a Wikiversité, il y a Wikilivre. Tout à l'heure, je voyais Framabouki, je te dis souris de ce nom. Mais il y a Wikilivre qui existe, qui est un peu le même principe de la transcription, de la diffusion des livres du domaine public. Il y a 12 projets, donc les chercheurs peuvent aisément trouver leur place dans mille nombre de projets multicontributifs.
Je trouve ça intéressant. Je me souviens d'un livre de Dominique Cardon, je ne sais pas si vous connaissez le sociologue français, qui a analysé un peu Wikipédia et qui s'est intéressé surtout à l'édition et comment est-ce qu'on arrive à du contenu de qualité à la fin. Et je me demandais si ça ne pouvait pas être utilisé justement pour des comités de lecture de revues scientifiques publiées en livre, qui là, pour le coup, pour ne pas tomber dans « c'est gratuit, donc c'est médiocre », on pourrait réintroduire cette question de filtre qui... Et là, je reviens un petit peu sur... c'est quand même la deuxième question, c'est que derrière ces livres, ces publications scientifiques, il y a aussi peut-être une qualité. Et là, ma question est peut-être un tout petit peu naïve, mais il y a aussi des comités de lecture, de relecture, etc., qui font qu'à la fin, ce qui est présenté au public a une onction universitaire, une onction scientifique, qui n'est pas forcément le cas d'un dépôt où on viendrait mettre... Je finis l'idée. Et donc l'idée d'utiliser la méthode de Wikipédia en incitant des super utilisateurs à venir corriger, contrôler, etc., éditer, ça pourrait être une solution intéressante. Et voilà, je sais pas, j'essaie de...
Laurence, vous vouliez réagir ?
Non, c'est ça, c'est que dans les dépôts institutionnels ne sont pas des lieux de publication, ce sont vraiment des archives. Donc ce qui... Quand vous publiez dans une revue, qu'elle soit en ligne ou pas, elle peut être évaluée ou pas par un comité de pairs. Le résultat, vous le déposez dans le dépôt institutionnel et vous indiquez la catégorie de document. Ça peut être un article évalué par les pairs, un chapitre de livre, un rapport de recherche. C'est très clairement indiqué dans n'importe quel dépôt institutionnel. Donc, ce n'est pas un lieu de publication, un dépôt institutionnel.
Donc, c'est les sources.
C'est une copie, comme Vincent l'expliquait. C'est une copie, mais avant la mise en page finale dans la revue, c'est votre PDF de votre Word que vous envoyez, le dernier texte que vous envoyez à l'éditeur avant qu'il fasse la mise en page. D'accord. C'est ça que vous déposez, en indiquant bien le type de document que vous avez déposé. Donc, ce n'est pas un lieu de publication. Par contre, il peut y avoir des inédits, mais à ce moment-là, vous indiquez que c'est un inédit que vous déposez dans l'archive. C'est archivage, si on dépose une copie, comme c'est du virtuel, du numérique, ça peut se démultiplier à l'infini. Donc, on dépose une copie numérique dans un dépôt institutionnel. C'est pour ça que je disais, c'est pas l'un ou l'autre. Et ça aussi, c'est une énorme confusion que j'ai rencontrée chez mes collègues, mais constamment. Les gens disent, ah, c'est en libre accès. D'abord, ils confondent libre accès et en ligne. Ils disent, ah, mais la revue, elle est en ligne, donc elle est en libre accès. Non, il y a une confusion là. Et l'autre confusion, c'est, ah, comme c'est en ligne et en libre accès, c'est pas évalué par les pairs. Mais ça n'a aucun rapport. C'est du support.
C'est très déprimant, en fait. Hein,
c'est complètement ça. C'est déprimant vraiment... de confondre ça.
J'ajouterai une troisième confusion, c'est que si je dépose l'article sur le dépôt institutionnel, je ne peux pas le publier dans une revue après.
Oui.
Parce qu'il est déjà déposé, il est déjà publié. Donc, les gens mélangent tout. Mais il y a un petit élément que je vais amener par rapport à faire une distinction en fait, entre les dépôts institutionnels et les dépôts disciplinaires. Donc, par exemple, les physiciens, depuis une vingtaine d'années, ont développé un système parallèle qui s'appelle Archive, où tous les chercheurs en physique des particules, en astrophysique, dans beaucoup de domaines des maths, dès qu'ils ont une première version de l'article décrite, on le soumet là. Et donc, il est disponible pour l'ensemble de la communauté scientifique. Archive vit avec, en gros, pas beaucoup de sous. Ils n'ont pas énormément besoin de subventions. Le système, il est très, très, très simple. Et il y a beaucoup d'articles, en fait, qui vont passer leur vie sur Archive et ne seront jamais publiés dans des revues à comité de pairs. Donc, ce n'est pas nécessairement... Dans ce cas-là, l'archive n'est pas un dépôt en parallèle avec la revue, mais c'est vraiment l'endroit final où la dernière version de l'article va se retrouver. Et les articles qui ne vivent que sur Archive sont cités, sont utilisés. C'est juste qu'il y a des chercheurs qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de jouer la game des revues. Je n'ai pas besoin de jouer la game symbolique de publier dans les revues. » Et donc, je le laisse là. La connaissance est là. C'est gratuit. Merci. Bonsoir. Non, parce que les physiciens...
Ça marche très bien.
Ils s'en crissent. Les physiciens, là, la revue a plus de rôle pour eux. La revue a un rôle, en fait, essentiellement... C'est bizarre parce que dans certains cas, ce que j'ai entendu, c'est que les revues, les physiciens voient les revues comme l'archive. Alors que c'est l'inverse. Le dépôt institutionnel, c'est l'archive. Non, non. Il est diffusé sur Archive, puis je vais peut-être archiver mon article dans une revue en parallèle.
Mais je pense que c'est lié à la professionnelle, c'est-à-dire les disciplines qui ont des organismes d'agrément, comme en santé, en sciences de l'administration, en chimie, toutes les sciences appliquées, qui sont surveillées aussi par des organismes par ailleurs. La seule façon d'évaluer la qualité des travaux, c'est des choses quantitatives. Alors que dans le fond, en mathématiques, en tout cas, ils sont peut-être plus libres, c'est une hypothèse que je fais, ils sont peut-être plus libres d'évaluer les critères de promotion, etc., et d'être moins obsédés par les revues. Mais en sciences de l'administration, je pense que c'est le pire. Ils sont complètement... c'est du délire, du pur délire.
Juste pour conclure avec les physiciens, très, très, très rapidement, en fait, les physiciens, ils sont égalitaires. C'est une communauté qui est très, très, très mertonienne, très, très, très communiste. Ils signent en ordre alphabétique. Même, ils se retrouvent 500, 1000, 2500 sur un article. C'est en ordre alphabétique. Donc, il n'y a pas d'auteur. C'est la communauté qui écrit l'article. Et donc, en conséquence, là, on ne joue pas la game de l'évaluation de la recherche, qui est très, très jouée en administration. Mais c'est normal, en administration, l'importance du capital, on la connaît. Capital économique et capital symbolique.
Je voudrais ajouter, à la deuxième question, qui est l'état de la diffusion... ou de l'adoption. Pour moi, c'est deux choses, c'est deux finalités complètement différentes. Et probablement que la valorisation du savoir libre est un point important dans tout ça. Parce que déposer un rapport ou des données dans un dépôt institutionnel, oui, c'est important. Il faut être capable de le retrouver, le conserver. Utiliser des normes aussi, là, pour moi, c'est important. Il y a un niveau de maturité à acquérir, mais la valorisation de ces données-là, de ces rapports-là, c'est quand même des activités qui sont récentes dans les universités. Certaines universités vont avoir un groupe qui vont se spécialiser dans la valorisation, d'autres, ça va être des valorisations disciplinaires ou autres. Je crois qu'il faut vraiment... se concentrer aussi sur cette dimension-là qui est nouvelle. Donc, valorisation, ça veut dire enrichissement des contenus, médiation dans les différents réseaux, médias. Je pense que comme ça, on va favoriser l'adoption et aussi l'éducation que le savoir libre, accessible, gratuit, ouvert, et de bonne qualité, et probablement de qualité supérieure. Parce que, justement, la révision par les pairs et autres, là, c'est probablement une des choses aussi qui nous permet de rapprocher la science, le savant, du grand public. le grand public n'a aucune idée de ce qui se fait au niveau du savoir en enseignement supérieur. Donc, la valorisation de ces contenus-là doit se faire ou à l'intérieur du monde universitaire de recherche, mais aussi un lien vers le grand public, la vulgarisation.
Toujours dans le cadre de la deuxième question, Vincent, je crois que vous étiez déjà en
train de... Oui, je me suis mouillé.
Donc, je me tourne vers monsieur Bacchement.
Oui, merci. Je vais juste rappeler à ce niveau que une bonne adoption des pratiques de diffusion en milieu étudiantin passe, se réitère par la formation. Mm-hmm. La formation à l'auto-archivage. C'est-à-dire qu'il faut que les universités ici tablent sur des bonnes politiques d'auto-archivage, faire comprendre aux chercheurs ou aux étudiants la différence entre pré-print et post-print. C'est généralement cette confusion-là, vous l'avez soulevée d'ailleurs, amène les chercheurs à ne pas vouloir publier ou faire quoi que ce soit dans le livre assez. Donc, pour moi, le volet formation est très important à ce niveau. Et au niveau des chercheurs, même ceux qui publient, récemment, au Gabon, j'ai connu une expérience un peu amusante où une de mes enseignantes avait écrit un livre et puis tous les droits d'auteur ont été cédés à la maison d'édition. Donc, on lui disait que c'est à partir du 501e exemplaire qu'elle pourra bénéficier, si c'est de quel pourcentage. Je lui disais qu'aujourd'hui, il faut utiliser la licence Creative Commons BI. Pour faire. Donc, c'est tout un processus d'éducation, surtout en Afrique francophone. Donc,
merci. Benoît?
Je réponds en disant que c'est Mme Minsky par rapport à la réalisation par les maires. Le modèle de Wikipédia est assez unique en son genre parce que pour ceux qui ont déjà été modérateurs sur des formes de discussion dans une ancienne époque, la modération se faisait avant la publication. C'est un modèle qui fonctionne pas. C'est drôle parce que Wikipédia il y avait la lecture par les pairs avant publication, mais c'est un modèle qui est mort après 2 ans. Seulement parce que la production de contenu dépassait largement la possibilité de faire la lecture ou ce que j'appelle dans le monde de la discontribution et l'autorégulation. J'inviterais tout le monde à aller voir les pages de discussion sur Wikipédia. On est deux sur un article, mais aussi la page de discussion. Et c'est là que tout se passe. Mais l'autorégulation sur lequel c'est souvent beaucoup plus intéressant.
Peut-être un petit point sur Wikipédia comme lieu de diffusion des connaissances savantes. Si on passait tous à Wikipédia, il y a une contrainte, en fait. Et quand j'ai une contrainte, c'est pas moi qui la met, cette contrainte-là. C'est la communauté scientifique et la façon dont elle fonctionne. La communauté scientifique cherche... Les chercheurs ont besoin de capital symbolique. Ils ont besoin de capital symbolique pour obtenir des subventions, pour obtenir des promotions, etc. Ce capital symbolique-là s'octroie par un concept très, très simple qui est le concept d'auteur. Hein, combien d'articles vous avez écrits, quels articles vous avez écrits, etc. Avec la structure de Wikipédia où l'auteur disparaît, en fait, à beaucoup d'égards, mais est beaucoup moins présent sur le document que la plupart des gens voient, à tout le moins, ça va créer beaucoup de résistance. En fait, à tout le moins, la façon dont la science fonctionne en ce moment, ce serait très, très, très difficile de passer à ce mode-là. Excepté chez les physiciens, exactement. Les seuls qui seraient capables de passer à ça, c'est les physiciens.
Parce que les auteurs de Wikipédia sont mentionnés dans l'alphabétique.
Bon, voilà. Alors que dans tous les autres champs, l'auteurat est quelque chose de très, très, très codifié. Vous êtes le premier auteur, vous êtes le dernier auteur, vous êtes un auteur du milieu. Tout ça ne veut pas dire la même chose.
Florence, je crois que vous vouliez dire quelque chose.
Oui. Mais est-ce qu'on fait plus perspective d'avenir, là?
Écoutez, je crois que...
Oui, en tout cas.
Ah, mais il y a
plein de questions. Il y a des questions sans doute. Oui, on monopolise.
Mais alors, je vais...
Mais... Monsieur Gosset, d'abord. On va laisser un peu de salle. Monsieur Gosset, ensuite il y avait Monsieur Mathieu, monsieur avec les Canadiens de Montréal, et ces deux messieurs.
Alors, un peu que la salle participe. Allez-y.
Oui. Une remarque et une interrogation. La remarque, c'est que nous, effectivement, on a une maison d'édition qui fonctionne. Alors, j'en ai pas du tout parlé dans ma conférence juste avant parce que c'était pas le sujet. Mais on promeut aussi la culture libre et on a décidé de monter notre propre maison d'édition pour publier des livres avec les mêmes types de licences que les logiciels libres, donc des livres sous Creative Commons, Creative Commons Zero ou by ESA. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un comité de lecture qui va être capable de faire du peer review sur des ouvrages qui peuvent aller de la bande dessinée jusqu'au roman ou aux articles un petit peu plus scientifiques sur l'histoire du logiciel libre, par exemple. Donc c'est un système qui fonctionne et l'interrogation que ça me pose derrière, c'est est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, justement, il y ait des systèmes d'auto-organisation ? Si je dis, j'emploie le mot peur avec volontairement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie crainte des universitaires notamment à voir auto-émerger des groupes qui pourraient finalement publier eux-mêmes leur propre contenu. Et donc, enfin, ce que je retiens pour l'instant de la discussion, c'est que, enfin, vous heurtez, à mon avis, à deux choses qui sont pas du tout simples à résoudre. Hein, donc, j'ai pas forcément de solution. La première, c'est la soumission vraiment aux grands éditeurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas de piste. Enfin, c'est quelque chose de trop facilement accepté parce qu'il y a des problématiques d'ego, effectivement, qui n'interviennent pas, par exemple, chez les physiciens. Et la deuxième chose, c'est au niveau de l'éducation, j'ai du mal à comprendre, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu universitaire, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas fichu de faire une journée culture du thésard. Alors, culture du, enfin, quelqu'un qui ferait sa thèse, pourquoi est-ce qu'on lui apprend pas à se servir correctement d'un ordinateur? Pourquoi est-ce qu'on lui apprend pas ce que c'est qu'une licence pour Creative Commons? Tout ça peut s'expliquer en une journée chrono en main, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on lui explique pas ce que c'est effectivement qu'une publication, le post-print, le pré-print, etc. Tout ça s'explique de façon assez simple. Le problème, c'est qu'il faut le découvrir par soi-même. Et il y a de l'information, de bruit de couloir en bruit de couloir, comme ça, des choses qui vont dire « Ah, mais tu peux faire ça », etc. Je trouve absolument hallucinant que dans le milieu qui est censé partager le savoir et où il est censé être réfléchi quelque part notre avenir, en tant que citoyen, on n'arrive pas à prendre une journée sur une thèse de 5 ans, et je ne parle même pas du cursus universitaire d'avant, mais pour expliquer c'est quoi ce métier, et notamment par rapport à la culture informatique ou à l'inculture informatique de plein d'universitaires. J'ai été formateur pour des universitaires, donc je le dis d'autant plus, mais c'est absolument hallucinant de voir que l'outil informatique est quelque chose de... C'est vraiment une boîte noire pour la plupart des universitaires. C'est juste Word, Excel... Et ça va pas forcément beaucoup plus loin. Alors, il y a des métiers, évidemment, où ça change. Mais voilà, je suis perplexe vis-à-vis de ça. Et du coup, ma question derrière, c'est qu'est-ce que vous faites pour réparer ça? Enfin, pas vous spécifiquement, mais que fait notamment le milieu de la recherche et de l'universitaire pour réparer ça?
Il y a une chose très, très précise qu'elle fait qui commence demain. C'est les journées de la relève en recherche, ou je ne sais pas quoi, qui sont organisées par l'ACFAS, les fonds de recherche du Québec, tout ça. Alors j'ai été voir le programme, je vous annonce que je prépare une riposte. Il y a sur c'est vraiment tout, là, comment faire son doctorat, etc. Il y a 4 ateliers sur comment approcher les entreprises, etc. 2 ateliers sur la propriété intellectuelle, rien sur le libre accès, rien, ni sur les rapports sciences-société. Donc, et je me suis entendue avec l'ACFAS, ils attendent ma tribune pour le 5 octobre, et je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ben d'accord, l'année prochaine, on réfléchira, etc. Donc, vraiment là, c'est cette journée dont tu parles, mais il n'y aura rien.
Qu'est-ce que les universités font, qu'est-ce que les gouvernements font? C'est extrêmement difficile, en fait, il n'y a pas beaucoup d'actions, en toute honnêteté, hein, qui sont faites. Ce qui est fait à l'échelle scientifique en ce moment, c'est les mandats institutionnels, ou les mandats disciplinaires, ou les mandats des organismes subventionnaires. Donc, un mandat, c'est quoi simplement? C'est que vous avez l'obligation, en tant que chercheur financé par un organisme subventionnaire, de déposer votre article en accès libre dans les 12 mois suivant sa publication. Donc, on s'entend que 12 mois, c'est pas immédiat. Hein? Dans certains cas, 12 mois, la littérature scientifique, elle est peut-être déjà un peu passée date. Et là, ce qu'on a remarqué dernièrement chez certains éditeurs savants que je nommerai pas, mais qui s'appellent Wiley, c'est que les articles sont acceptés par la revue, disons, au mois de décembre, et là, marinent sur le site web de la revue sans avoir de date de publication pendant un an. Et là, un an après, on lui donne une date de publication, et là, le chronomètre part pour le 12 mois d'embargo. Donc, vous comprenez, il y a certaines pratiques qui sont borderline malhonnêtes, qui tendent à essayer justement de repousser l'embargo, donc de lui donner une longueur un peu plus grande. Donc, il y a les mandats, des organismes subventionnels, mais aussi il y a des mandats, tantôt on a parlé du mandat de l'Université de Liège en Belgique. Ce mandat-là, c'est le plus fort. Pourquoi? Parce que c'est par là que passe l'évaluation des chercheurs. À la fin de l'année, on regarde dans le dépôt, on dit « Ah, Pierrette, t'as écrit, t'as rien dans le dépôt, c'est pas fort », alors que l'autre chercheur en a 26. Donc, c'est ce qu'on se sert pour évaluer les chercheurs. Et ce qu'on voit donc dans le cas de Liège, c'est qu'à peu près 80% des articles des profs sont sur le dépôt. Dans le cas des autres universités, comme l'UdeM, qui a un dépôt mais qui n'a pas de mandat, c'est 10% des articles des profs, 20% des articles des profs qui sont sur le dépôt. Donc, il y a des actions qui sont prises. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de mandat fort qui est donné aux chercheurs, les actions n'ont pas beaucoup d'effet.
Monsieur?
J'ai une autre réflexion par rapport à la diffusion. C'est quelque chose qui est apparu dans les dernières années, c'est les cours en ligne massifs, les MOOC, mm-hmm. Qui sont, je pense, un bon moyen de faire de la diffusion du savoir. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de MOOC dans les universités québécoises, alors qu'il y a vraiment une offre de formation en ligne qui est proposée à l'Université de Laval ou n'importe où. Et il y a aussi un autre point, c'est la vulgarisation scientifique sur YouTube, pour le coup, c'est énormément développé. Il y avait un article dans, je crois, La Presse cette semaine, et c'est des choses assez impressionnantes, qu'il y a des chaînes avec des centaines de milliers d'abonnés sur des sujets assez, assez pointus. Est-ce que ça peut aussi passer par là, par la diffusion vidéo la diffusion vidéo dans ce point-là.
Oui, je veux bien intervenir. Les MOOC, c'est vrai, les MOOC sont considérés comme des ressources éducatives libres. Et à un moment, on a cru que ça pouvait être une chance pour l'Afrique de diffuser le savoir, de vulgariser un savoir de qualité à l'échelle continentale. Mais en creusant, vraiment, il y a toute une économie caché derrière ces affaires-là, qui font en sorte qu'à un moment, on se trouve buté à des contraintes financières qu'on ne nous dit pas en avant. Donc, pour moi, les MOOC, c'est bien, c'est vrai, mais c'est un piège aussi en retour qui lie vraiment les dirigeants universitaires et les populations.
Les MOOC sont une excellente façon de vendre des livres pour un chercheur.
À l'Université Laval, il y a eu un MOOC sur le développement durable qui a été très suivi, grand succès et tout. Ils étaient très prudents. Et là, du coup, ils ont aimé ça. Ça fait connaître l'université, notamment en Afrique, là, en Haïti, plein l'ont suivi. Et donc, ils sont en train de transformer leur système, l'ENA, l'environnement numérique d'apprentissage, qui est le logiciel que l'Université Laval a fait pour les cours en ligne, pour qu'ils puissent accueillir des MOOC. Donc, dans le fond, dès l'hiver prochain, n'importe quel prof d'Université Laval pourrait faire un MOOC à partir de son environnement numérique. Donc j'espère que des profs pourront, sans avoir à investir beaucoup d'argent, faire de plus en plus de cours en ligne. Pour ce qui est de YouTube, vidéo, YouTube, c'est quand même là où les étudiants vont. C'est extraordinaire, j'ai reçu moi un message hier d'un étudiant qui me disait « Hey, j'ai vu vos trucs sur YouTube, est-ce que vous avez publié aussi, j'aimerais ça lire ?» Mais il avait connu ce que je faisais par des vidéos avant de connaître le texte. Donc,
ce sera payant et avec de la publicité avant, pendant et après, plus personne n'ira voir votre cours.
Ah, je sais bien.
C'est ça.
C'est tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, YouTube, c'est un moyen incroyable de diffuser de la connaissance et de toucher des publics, notamment des jeunes Africains, des jeunes Haïtiens, qu'avec nos textes scientifiques, on ne touchera jamais.
Sans oublier que YouTube a une contribution aussi à l'auteur d'Australie, au monde de
Mais je voudrais préciser quelque chose au niveau des MOOC. Un MOOC, ce n'est pas juste des présentations PowerPoint diffusées dans Internet. Il y a de la modélisation de connaissances à l'intérieur de ça. Et puis, à ma connaissance, ça n'existe pas des systèmes où un MOOC se fait en faisant ça comme une page web. c'est pas ça, là. Alors, il faut, faut être prudent là, lorsqu'on parle de ça. Je veux juste réagir, là. Ouais.
Bon, évidemment, c'est un travail très important. La question aussi de la propriété, je ne sais pas si, comment vous avez réglé cette question. La propriété du cours, hein, pour le professeur. Là, à l'Université de Montréal, il y a, au plan de la propriété intellectuelle, le professeur est maître de son cours. Hein, parce qu'évidemment, ensuite, une fois que vous l'avez donné, vous l'avez créé, ben, on peut vous dire merci beaucoup. Quelqu'un d'autre va le donner à votre place. Mais enfin bon. Mathieu, finalement, vous voulez intervenir.
Oui, bon. Oui donc je voulais amener la discussion sur l'audio-vidéo. Donc, c'est déjà commencé. Il y a énormément de tables rondes filmées, par exemple, de conférences filmées, etc. Puis il y a quand même une consommation de ça assez importante. En tout cas, si je me prends moi comme exemple, j'en consomme quand même pas mal. Puis je peux me citer moi-même en exemple là, d'avoir trouvé quelque chose de très intéressant et je suis passé de la conférence à là, ça me prenait les livres parce qu'on veut creuser un peu plus. Donc c'est une voie de diffusion vraiment importante. Puis l'audio vidéo, c'est quand même majeur. Là. Il n'y a quand même pas tant de gens qui vont lire, bon, à part l'actualité, on lit beaucoup l'actualité en ligne, mais faire des lectures un peu plus longues, des livres, tout ça, il y a beaucoup plus de chances d'attraper le grand public à travers d'autres moyens, d'autres médias. Et puis, au Québec, ben, toutes les universités produisent forcément, les universités même les cégeps produisent du contenu audio-vidéo, et c'est hébergé un peu partout, YouTube, Vimeo étant probablement les plus utilisés. Il y en a qui ont peut-être leur propre plateforme, mais il n'y a absolument aucun catalogue qui recense tout ça et qui le met en valeur. Parce qu'on peut parler effectivement d'une base de données. On a au Québec des bases de données de contenu, de ressources éducatives libres ou gratuites. Mais pour ce qui est de mettre en valeur, on n'en a pas. Et il se trouve qu'en France, ils ont le canal U, qui est la vidéo, la web télé de l'enseignement supérieur. Et ils cherchent à faire se rendre à l'étape d'une expansion internationale. Donc, ils ont déjà donc en France mutualisé le dépôt de documents audio-vidéo. Et ils ont leur propre portail. Et puis, ce serait, c'est pas difficile d'imaginer qu'il pourrait y avoir d'autres portails et que toute la francophonie utilise le même dépôt centralisé, ce qui serait vraiment très bien. On aurait un catalogue complet de tout ce qui est audio-vidéo de l'enseignement supérieur. Pour l'éternité, idéalement.
Ce qui sous-tend l'utilisation de normes. Et puis, disons que, oui, c'est un rêve. Oui, c'est à atteindre.
Mais ce n'est pas un rêve. C'est en action.
Il y a des actions, sauf que là, à avoir plusieurs réseaux, vous allez avoir des initiatives qui sont particulières, comme les dépôts universitaires, tu as les dépôts des commissions scolaires, tu vas avoir les dépôts des cégeps, et name it, là, toutes les différences. Même, il y a des organisations privées qui font de la formation aussi. Il y a des OSBL qui font de la formation. Chacun va avoir sa plateforme, on n'utilisera pas la même norme. Bien, les catalogues, là, c'est à moyen long terme.
Rapidement, Valentin, avant de passer aux autres.
Oui, j'aimerais juste revenir sur le point qui a été avancé. C'est que la solution ne viendra peut-être pas de l'intérieur de l'université. Elle pourrait venir d'en dehors et finalement proposer quelque chose qui soit fonctionnel, comme cette initiative-là, ou l'idée du marketing avec Framasoft, c'est ça? Bon, c'est du marketing, mais c'est un marketing qui sert une fin qui, à certains égards, est assez noble. Et on pourrait imaginer qu'une initiative vienne imposer un standard qui, bon an mal an, permette de diffuser librement de milliers de vidéos en MOOC, positif.
On n'impose pas un standard, on adopte collectivement un standard. Parce que là, on a deux paradigmes. Hein? Le paradigme de l'individu puis la collectivité, du libéralisme et puis du communautaire. On est dans ce monde-là conflictuel constamment. Et puis, ben, les universités, les publications, c'est le reflet de ce monde-là là, qui est assez paradigmatique.
Alors, on va... Je crois qu'il y avait deux interventions, ou une, je ne sais pas, très rapide. Réaction rapide pour qu'on puisse passer à la dernière question, finalement, et ouvrir les perspectives. Et monsieur, il y avait monsieur aussi, peut-être.
Déjà, j'ai bien aimé la dernière intervention du monsieur en avant. Si on faisait un pont avec la physique, ce que je vois de différent dans le savoir physique versus les autres savoirs, il y a toujours la volonté d'explorer, donc d'aller de plus en plus de chaque côté des limites, mais en même temps, une volonté d'unir. Puis, je pense qu'il y a vraiment... Moi, je vous ai écouté parler, j'ai été impressionné à plusieurs moments, mais je dois avouer que je suis perdu ben raide. Il y a combien de sources différentes? Moi, je suis en informatique, c'est simple, il y a une racine, puis ensuite, ça se divise logiquement. Il n'y a pas de parcours qui, où est-ce qu'on se perd. Ce qui manque présentement, c'est une plateforme d'arrimage. Parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence, plusieurs manières de percevoir l'information et le savoir, et plusieurs cultures. Il manque ce guide humain, cette logique, cette structuration, ce mind mapping, où est-ce qu'on va recueillir toutes les différentes manières de visualiser, de comprendre, de modéliser, les mettre dans une seule place, où est-ce qu'ensuite on fait des connexions avec Archive ou les revues ou ci ou ça, parce que pour gagner ce combat de la liberté, ça fonctionne avec le levier. Le levier vient du nombre. Le nombre inclut la diversité. Donc, il faut un nouveau protocole qui permet de compatibiliser l'hétérogénéité et l'homogénéité, puis que les gens soient portés à aller tous dans la même plateforme, puis que ça soit une économie, l'économie du savoir qui appartient à tous. Einstein, je ne pense pas qu'il serait content si on savait que les compagnies de GPS nous chargent une partie de son égal MC2 et de ci et de ça. Puis, si on prend la peine de s'imaginer tout ce qui a été privatisé, qui s'applique sur des briques qui ont été données, il faut...
Si, est-ce que quelqu'un veut réagir, Florence?
Oui. Ben, je comprends qu'on se sente perdu, mais en même temps, moi, je suis pour la pluralité. Il n'est pas question que tous les savoirs doivent se ressembler et être liés entre eux. Justement, on s'y perd, mais c'est comme ça qu'on réfléchit et qu'on évite la pensée unique. Ça, c'est le... Mais là, bon, c'est un débat épistémologique de fond. Oui, mais là, c'est vraiment un biais de discipline, parce que moi, je suis anthropologue, sensible à la différence des cultures et voulant préserver cette différence, parce que c'est notre humanité commune qui est dans la différence. Et en Afrique, il y a toutes sortes de savoirs différents, et dans les universités aussi. Et bon. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, par exemple, dans les dépôts institutionnels, c'est qu'ils sont tous interopérables. C'est-à-dire que les requêtes qu'on leur donne peuvent naviguer à travers tous les dépôts institutionnels. Et le rôle des bibliothèques, je pense qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, le rôle des bibliothèques en ce moment, mais c'est extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas du tout les bibliothécaires, etc. Je découvre. Ils sont en train de faire un travail, ben, ils sont formés bien souvent par Vincent et ses collègues à Montréal. Ils font un travail extraordinaire de construire justement un réseau parallèle à celui des revues, etc. Et l'idée, c'est même à long terme que les dépôts institutionnels rendent inutiles les revues. Qu'ils offrent les logiciels qui permettent à des groupes de chercheurs de publier, de gérer, qu'ils offrent, que sont les bibliothèques, on se demandait quelle alternative. Les bibliothèques universitaires peuvent parfaitement mettre en place des comités de pairs, puis valider les articles et offrir des logiciels pour produire les revues comme Open Journal System, par exemple, et le font de plus en plus. Et même, il y a des universités où les presses universitaires et les dépôts institutionnels fusionnent. Et ça devient un organisme, dans le fond, d'archivage et de publication, où tout ce qui compte, c'est de rendre accessible le savoir qui est produit par les chercheurs d'une université. Et au bout d'un moment, même le directeur de ma bibliothèque disait « on n'aurait même plus besoin de revues ». On peut imaginer qu'on n'aurait plus besoin de revues, qu'on serait débarrassé de tout ça, et que quand quelqu'un a un résultat, il le publie, et que la bibliothèque s'occupe de tout, peut jouer un rôle fondamental. Mais je voulais aussi dire qu'on vient, nous, de créer des éditions en libre accès de livres. Ça s'appelle les éditions Sciences et Biens communs. On utilise une technologie qui est basée sur WordPress, qui a été inventée ici par un Montréalais, qui s'appelle Hugh Maguire, ça s'appelle Pressbooks. Donc il a bricolé le logiciel WordPress pour transformer, autrement dit, on met le contenu du livre, ça fait un cyberlivre, donc un petit site web, chaque page, chaque chapitre est une page, et avec un bouton magique, moi je l'appelle le bouton magique, on clique dessus et on a le PDF, Et moi, j'envoie le PDF directement à un imprimeur avec la couverture et j'ai un livre, j'en ai ici plusieurs. Donc, on a créé les éditions Sciences et Biens communs pour publier des livres qui vont être à la fois en libre accès sous forme de cyberlivres, mais qui pourront aussi être vendus pour faire un peu d'argent, parce que je ne suis pas complètement naïve non plus, vendus pour financer ça, et même imprimés papier pour ceux qui préfèrent ça. Et puis, c'est là qu'on ferait notre... qu'on prévoit faire nos petits profits. Mais les livres en libre accès vont être accessibles dans le monde entier sur le web. Donc c'est un logiciel, si ça vous intéresse, ça s'appelle Pressbooks. Il est en train de faire affaire avec plein de presses universitaires aux États-Unis, Université du Minnesota, etc., qui ont compris, les presses universitaires qui fusionnent dans le fond avec les bibliothèques, qu'elles peuvent offrir aux chercheurs une alternative très simple pour publier. Alors, je veux dire, il y a peut-être des gens qui ont peur, comme tu disais, là, de groupes qui s'auto-organisent, mais nous on le fait... Et vraiment, on va de l'avant, il n'y a rien qui va nous arrêter.
Vincent, un petit mot, je crois, non?
Ah, non. Moi, je me demandais si on était dans la troisième question.
Ah, non, pas
si
tout de suite.
Parce que c'est une perspective d'avenir, ça.
Et on va intervenir. Je demande à monsieur d'être bref, et puis ensuite, on fera un dernier tour de... Pas un tour, mais une ligne de table. Allez-y. Oui, je vous en prie.
C'est ça. Le renforcement des licences et la responsabilité des ayants droit. Ceux qui discutent des avoirs non levés s'exposent à des risques. Ils peuvent être calculés. Plusieurs auteurs de l'article non levé peuvent très bien ne pas renforcer leurs droits. Un Finlandais collectionne et discute tous les articles qu'il trouve depuis 1868 sur le domaine particulier. Est-ce que les lois de son pays lui permettent de le même problème? Une réaction par contre, c'est maintenant la réalité de nos options pour vous. Ne devrait pas être cité comme source. Je suis assez surpris, en fait, une question. Les articles scientifiques se citent entre eux. Il y a une évaluation parlementaire. En quoi les cinq lettres de Wikipédia ne peuvent pas être citées, puisque les pages de Wikipédia sont coécrites et surveillées par des pairs? Puisque les sources sont citées sur Wikipédia, quel est le problème? Je continue, j'ai une question pour dire aussi. Les normes de Wikipédia sont passées de la lecture à la discussion, ça a été mentionné. Est-ce que les normes sont en train de se construire plutôt de manière ad hoc en ce moment, par le simple fait que Wikipédia est très populaire? De quelle manière d'autres normes pourraient aider à structurer des efforts de production ou de diffusion, autant de savoir nouveau que de synthèse ou de vulgarisation peut être diffusée sur Wikipédia? En fait, je me demande qu'est-ce que les normes pourraient, en quoi ça peut être plus puissant que ce qui est en train de se passer en ce moment avec des plateformes très populaires comme Wikipédia. Est-ce que c'est juste une question de les gens ont adopté Wikipédia dans sa manière de fonctionner en ce moment, il semble assez bien fonctionner. Faire suite à ça, sur la valorisation de savoir libre, est-ce que c'est juste une question de posture? Moi, je me suis posé la question souvent, étant un des cofondateurs de Facile il y a longtemps. Parce que dans la vraie vie, il y a une cohabitation possible, je pense, entre la culture libre et non libre. Si on est informé des enjeux, c'est ce que Framasoft a fait aujourd'hui. Framasoft nous a informé des enjeux entre la culture libre et non libre, la différence qu'il y a, en quoi c'est important de connaître comment les cultures non libres fonctionnent et comment on peut travailler avec des cultures et des outils libres. Finalement, je reviens à ce qui a été dit au début, la culture informatique informationnelle. C'est ça qui est majoritaire en ce moment. On a vraiment. L'injustice magnétique, elle est là. Le fait de ne pas savoir comment fonctionnent les cultures non libres et les cultures libres. Je pense que si ça, effectivement, s'est enseigné, on pourrait naviguer à travers tout ce qui nous est offert, on pourrait arrêter ça par rapport. En fond, c'est à peu près ça. Je pense que personne ne peut éviter la culture non libre. Et personne ne devrait éviter la culture libre. Donc, il y a un espèce d'équilibre.
Merci. Alors, je demanderai d'abord à Diane de réagir et ensuite à Vincent et à Benoît. Peut-être pour la fin, puisque ça s'adressait un peu plus à Florence, mais évidemment, tout ça, ce sont des suggestions.
Mais concernant Wikipédia et puis le fait que ce soit soit modéré, soit révision par les pairs ou des discussions, pour moi, ce n'est pas au niveau des normes, c'est des conventions de comportement informationnel entre les gens. Là, c'est pas une norme parce que c'est des façons de faire qui a été adoptée par une communauté, la communauté des utilisateurs et des producteurs de Wikipédia. Au niveau universitaire, on a aussi des conventions qu'on utilise des méthodes pour s'évaluer entre pairs ou avec un comité ou autre. Là, les normes, ça se situe au niveau, beaucoup plus au niveau des façons de diffuser l'information comme telle, là, comment les systèmes sont implantés, comment les données sont structurées. Je prends juste un exemple, le chiffrier, là, s'il n'y a pas une norme pour établir le nom de chaque champ, quand vous essayez de fusionner deux fichiers qui sont théoriquement semblables ensemble, bien, c'est impossible de faire. Hein? Alors, je le sais, ça, là, mon expérience au niveau de la pratique, au niveau des données ouvertes, c'est un gros problème. Fait que le libre accès, ce n'est pas juste de pouvoir accéder facilement. L'ouverture, là, ça touche aussi les normes, parce qu'éventuellement, on voudrait aller vers un web qui est interconnecté, que les éléments se circulent facilement. Bien, pour ça, il faut parler le même langage. Là, actuellement, c'est une cacophonie, actuellement. Il y a énormément de prolifération, mais c'est un niveau de maturité qui est... on est au début, là. On est des enfants à la maternelle, probablement, là, dans ça. Mais il faut continuer à réfléchir, à discuter de ça pour faire évoluer les choses. Mais c'est ça.
Rapidement, par rapport aux citations scientifiques qui sont faites de Wikipédia, moi, ce que je dis, c'est qu'il y en a. Je voulais pas faire de jugement de valeur, mais les scientifiques citent de plus en plus Wikipédia dans leurs travaux.
Il y a un flou juridique, un peu, peut-être une question législative, je ne parle pas des juristes, mais je vois souvent une réponse très populiste. Je regarde, je sais pas, un RDI, puis il y a une vidéo qui est diffusée, vidéo amateur qui est diffusée, puis source YouTube. Pour Wikipédia, c'est la même aussi. Par exemple, j'ai
fait
un article pour l'art il y a quelques années. Quand j'ai fait l'article au début, il y avait 102 auteurs. Puis moi, j'étais 103e. Puis depuis, c'est en 2011, depuis, il y a d'autres auteurs. Donc, qui est responsable? Il y a le conflit de la responsabilité aussi. Donc, je pense que, comme disait Mme Mercier, est-ce que c'est une déresponsabilisation? Je ne sais pas. On ne peut pas utiliser. Vous, en tant que scientifique ou esprit scientifique, vous ne pouvez pas utiliser Wikipédia comme une source parce que vous vous exposez vous-même à citer 103 ou 105 auteurs qui n'avaient pas un qui fait une mauvaise citation, une mauvaise source.
Mais c'est bizarre, moi. Je cite tout le temps Wikipédia, moi, mais je cite la page que j'ai consultée tel jour,
oui,
c'est tout.
Oui,
j'ai aucun problème avec ça.
Vous avez cité des sources.
Ben, je vais voir les sources aussi.
Non, mais ça dépend de citer. Il faut comprendre c'est quoi citer. Là. Ici, c'est pas faire une citation, ouvrir les guillemets non. Avec un morceau. Là. C'est citer un des aspects, un des concepts généraux du texte. Donc, c'est pas nécessairement un aspect, c'est pas nécessairement une citation mot pour mot qui est prise. Ouais.
Mais une référence, dire une référence YouTube, c'est vraiment très flou.
C'est
ça, comme,
vague que ça.
C'est pas. Bon,
Internet.
Oui, c'est ça, source Internet,
c'est la meilleure. Source Internet, c'est équivalent de source Internet, oui.
J'utilise surtout une analogie pour la responsabilité.
Oui, donc c'est les auteurs qu'il faut citer généralement.
Il faut mettre la date à tout le moins, par contre, quand on cite Wikipédia,
oui,
parce que la page change.
Dernière consultation, évidemment.
Ouais, voilà.
Alors écoutez, la dernière ligne de table, si je puis dire, puisqu'elle n'est visiblement pas ronde, ce seront quelles sont les perspectives d'avenir.
Au savoir libre, la diffusion à tous les sujets qu'on a.
Je pense que c'est de mieux en mieux. Il y a encore beaucoup de travail avant. On voit d'ailleurs avec.
Monsieur Gosset.
Qui ce soir va dormir parce qu'il va développer un torrent pour pouvoir utiliser des bagues classiques.
On y pense.
C'est beau. Mais c'est de mieux en mieux. Moi, je vois énormément. Des universitaires, des professeurs à l'université également, surtout en région, je ne sais pas s'il y a quelque chose.
traversée que vous avez lire, alors qu'en région, c'est déjà bien avancé. Donc, perspective d'avenir, peut-être que c'est plus la creuser avec les universités. Déjà, les bibliothèques du monde entier sont très, très collaboratives avec les livres. Donc, pas vraiment universitaire.
Ben, vous avez une exception ici. Hein,
d'ailleurs, le groupe Wikifiz.
Non, j'ai entendu.
Wikifiz.
Ah ouais, c'est intéressant ça.
Wikifiz. C'est pas un drink ça. C'est...
Non,
c'est
ça. Exact.
Ouais, oui. Ce qui est vrai, c'est que le libre est une chance pour l'Afrique, vraiment, pour les chercheurs, pour les universités africaines. Et on s'est saisi de cette opportunité-là au niveau du projet SOA pour. Mettre sur pied un dépôt institutionnel panafricain pour faciliter justement cette diffusion du savoir-là, une sorte, pour revenir à l'idée de plateforme du monsieur, une sorte de dépôt institutionnel panafricain qui allait permettre à tous les chercheurs d'Afrique francophone de déposer, d'archiver leurs travaux et de les diffuser en libre accès dans le monde entier, puisque les dépôts institutionnels sont interopérables. Donc, pour le projet SOA, c'est la perspective d'avenir que nous avons sur 10 espèces, bien sûr. Donc, c'est ça.
Vincent?
Historiser le phénomène un peu. Quand le numérique s'est massifié au milieu des années 90, les chercheurs avaient deux hypothèses sur son effet sur la communication savante. Certains disaient que ça allait libéraliser la communication savante, qu'on n'aurait plus besoin de journaux. Certains autres disaient, ouais, ben, peut-être que non, ça va augmenter la concentration entre les mains des grands éditeurs qui ont les moyens de faire le passage au numérique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, ça a eu le deuxième effet, l'effet malheureux, en fait, de rendre la communauté scientifique de plus en plus dépendante par rapport aux grands éditeurs savants. Tantôt, je vous donnais l'exemple le chiffre de 50 %, donc il y a 5 grands éditeurs, mais je vais donner un autre chiffre, mais qui est tout aussi terrible. C'est que donc 50 % de la connaissance scientifique est entre les mains de 5 grands éditeurs. Dans certains domaines, c'est à peu près 80. Donc, il y a 5 grands éditeurs qui contrôlent 80 % du marché. Donc, en termes de perspective d'avenir, ça, tout ça me rend un peu pessimiste. Et en fait, tant que les chercheurs se regrouperont pas, pour mettre fin à ça, parce que dans les faits, c'est les chercheurs qui déterminent, c'est les chercheurs qui offrent leurs connaissances aux revues savantes, hein, puis ils les offrent gratuitement. Moi, quand je publie dans une revue savante, je ne reçois pas un sou. Quand j'évalue des manuscrits pour une revue savante, je ne reçois pas un sou. Et or, on me revend ces articles-là via la bibliothèque, avec des augmentations qui sont absolument hallucinantes. En ce moment, les universités sont plus capables de se payer leurs revues savantes. Et donc, on est peut-être en ce moment, et c'est ce qui me rend peut-être un peu optimiste par moment, dans un point de rupture où là, il y a les Néerlandais ne se sont pas entendus avec Elsevier. Donc, les universités néerlandaises ne sont même plus abonnées aux revues du grand éditeur néerlandais parce que c'est trop cher. Donc, on a peut-être atteint un point de rupture. Maintenant, ça prend du courage pour faire les gestes de rupture, pour dire « je ne me réabonne pas en tant qu'institution ou en tant que chercheur, j'arrête de publier dans les revues de ces grands éditeurs-là ». Mais pour que les chercheurs individuellement aient le courage de le faire, il faut qu'ils sentent qu'il y a un appui institutionnel et qu'ils ont également l'appui de leurs collègues, ce qui n'est pas chose faite, malheureusement.
OK, alors moi, le mot qui me vient, là, c'est « vigilance ». Dans le sens que, oui, on peut avancer, là, être très bien, mais on est toujours menacé dans notre liberté d'expression. Puis la production de savoir libre, c'est une liberté d'expression. Que ce soit comme chercheur en institution universitaire, que ce soit professionnel dans les organismes gouvernementaux, que ce soit la publication ou le strict travail dans un organisme, est actuellement menacée par toutes sortes de lois, par toutes sortes de comportements. Et puis, je pense qu'il faut être très vigilant à ce niveau-là parce que c'est une chose qui peut nous faire beaucoup de tort. Mais on est au niveau de la courbe, je pense toujours à la maturité, là, on est vraiment au tout début. Et il faut être vigilant parce que c'est au début de notre quête de maturité que toujours, on a l'impression qu'on retourne en arrière. Actuellement, on est dans une période où on se sent comme soit en arrière ou on fait du surplace. Mm-hmm. Mais il faut être la vigilance puis beaucoup de courage, je pense, c'est ça.
Valentin.
Moi, j'essaierai d'avoir une position optimiste et je reviendrai sur la question que je connais un peu mieux, c'est-à-dire la question du droit et la théorie des petits pas, c'est-à-dire il y a des initiatives qui ponctuellement font avancer les choses, donc des micro-résistances, des micro-pas, etc. Et je pense à l'initiative qui est celle du mouvement du Free Access to Law, qui est un mouvement qui a été initié notamment ici à Montréal, mais aussi aux États-Unis. Et la volonté, c'était de rendre le droit accessible au plus grand nombre. Et ils ont réussi à créer ici au Canada un écosystème qui s'appelle CANLI, qui est donc le libre accès au droit pour tout le Canada. Ils ont identifié des acteurs qui étaient éventuellement prêts à payer pour que ce droit soit accessible. C'était les grands barreaux de toutes les différentes grandes villes du Canada. Et ils ont mutualisé leurs fonds et à la fin, cet accès au droit, cet accès à la jurisprudence est aujourd'hui accessible à tous les avocats, mais à toute la population. Et donc, dans cet écosystème, je vois quelque chose d'avenir parce que il n'y a pas tout le temps de l'argent pour aller valoriser du savoir. Alors peut-être qu'il y en a dans le milieu universitaire et que ça permet à des grands éditeurs de constituer des empires avec ça, mais il y a d'autres domaines où ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, c'est peut-être là où on peut vraiment tester des choses et se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire avancer le savoir libre.
Alors, je me permets de signaler que effectivement, CANLI est né ici, en fait, à l'Université de Montréal, au Centre de recherche en droit public, par Daniel Poulain, que je salue, puisqu'il est évidemment le premier titulaire de la chaire Lexum que j'occupe aujourd'hui. Et nous avions travaillé à l'époque, début des années 90, sur la question du droit d'auteur de la Couronne. Il semblait là aussi un combat très difficile à mener, qu'il a mené avec grand talent et jusqu'au bout. Alors, chapeau à Daniel Poulain s'il nous regarde. Florence.
Je pense que c'est vraiment c'est bien apparu dans toutes nos discussions là, c'est que les chercheurs n'ont pas forcément de mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais ils sont pris dans un système. Des fois, moi, je vois le film de Henri Laborie, là où on voit les rats là qui sont. Ils se courent après leur queue, là, ils publient pour avoir de l'argent, il faut qu'ils publient là, puis pour que... Bon, là, les universités, on coupe leur argent. On le voit un peu partout, il y a une crise des universités, il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc, ou bien ça va casser, ou bien ça va se transformer radicalement. Moi, je ne suis pas une nostalgique du tout. Si ça se transforme pour qu'on se débarrasse des revues, moi, je pense qu'on va vers un avenir radieux où les bibliothèques vont prendre en main l'archivage et la diffusion des connaissances scientifiques publiques faites avec de l'argent public. Là, je vois vraiment... Mais je pense que ça passe par une critique du système et de l'économie du savoir, qui est cette espèce d'idéologie qui envahit nos gouvernements, nos dirigeants d'université. C'est pour ça qu'ils se croient tout permis d'avoir des salaires énormes, parce qu'ils s'imaginent qu'une université est comme une entreprise, donc leur salaire, etc. Et il faut revenir à cette critique de l'économie du savoir et dire au gouvernement, bon, vous êtes pour le libre accès, hein, tous les gouvernements sont pour le libre accès, soyez cohérents, financez-le en finançant les bibliothèques, pas des acteurs privés. Mais il y a vraiment cette obsession, on est dans l'époque néolibérale. Alors, est-ce que le libre accès va gagner? Et là, je voulais dire quelque chose aussi que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'il y a deux conceptions de la science ouverte. Puis là, j'ai regardé dans la salle, là, il y a une femme pour le moment, il y en a deux, il y en a une qui allait, hein, là, on est deux. Il y a le monde du libre, hein, c'est quand même un monde qui est un peu masculin. Puis, c'est pas facile, hein, quand on est une femme, prof d'université, anthropologue en sciences sociales. Moi, maintenant, je fais des sites, je fais toutes sortes d'affaires, mais je passe pour vraiment une extraterrestre. Hein, je l'ai fait parce que j'étais curieuse, puis bon, en tout cas. Mais il y a une culture dans le libre qui n'est pas forcément très invitante pour les gens de l'extérieur, où on est coupable si on regarde YouTube ou bon, des choses comme ça. Et en plus, dans le mouvement de l'open science, mouvement anglophone de l'open science, moi, je suis dans des listes de discussion, mais des fois, on ne comprend rien. Ils sont dans des affaires de data mining et de je ne sais pas quoi. Eux, ils veulent les licences Creative Commons simplement pour faire du data mining avec les textes. Qu'est-ce que c'est du data mining, pour ceux qui ne savent pas? Vous savez pas. C'est, tu prends un article et tu le mets dans une machine, un ordinateur, un robot, je ne sais pas quoi, il va aller extraire les données dans des tableaux, etc., pour accumuler des énormes bases de données. Donc, ça remplace une personne qui lit l'article. Et donc, pour ça, il faut que l'article soit en Creative Commons, parce qu'il les donne à toute allure là, dans ces machines. Ça s'appelle le data mining, forage de données. Eux, c'est ça, leur enjeu. Bon, et par ailleurs, il y a un autre courant de science ouverte, moi je le dis volontairement en français, qui voit dans le libre, les savoirs libres, etc., simplement un enjeu de justice. Bon, moi je fais partie évidemment de ce mouvement-là avec Thomas et tout ce qu'on fait en Afrique, là, qui dit le savoir doit être accessible à tous, la science est un bien commun, la question ne se pose même pas. La notion de propriété intellectuelle, elle n'a pas de sens. Donc il y a un enjeu de justice, et à ce moment-là, il y a la question du libre, oui, mais il y a aussi la question de la langue. Donner aux chercheurs le droit de publier dans leur langue, pour s'adresser à leur public, pour enseigner à leurs étudiants dans leur langue. On publie tout le temps en anglais, je suis désolée, au Burkina Faso, les étudiants, ils ne lisent pas l'anglais. Ils ont besoin de textes français. Publier, donner, faire une place aussi aux savoirs locaux, aux savoirs traditionnels, faire une science un peu plus, un peu moins monolithique, là. Tout ça, pour moi, ça fait partie de ce combat de la science ouverte. Et le libre dans ce, n'est pas une fin en soi à ce moment-là, mais c'est un moyen. Mais pour ça, ça supposait que je sorte, ben, je ne suis jamais entrée, là, mais que je dise officiellement que non au paradigme de la science comme carrière uniquement ou comme outil économique. Et donc, dans la perspective d'avenir, ben, il faut continuer ce combat-là. Nous, à l'association Science et Bien Commun, c'est ce qu'on fait évidemment, où on essaye de dire on peut faire de la science pour autre chose. Puis ça, en Afrique, ils le comprennent très vite et très bien. Ça va être nos meilleurs alliés. Ça va être ça l'avenir. C'est eux qui vont comprendre avant ici.
Eh bien, écoutez.
Est-ce qu'il y a quelque chose de très important, si je peux l'avoir?
Oui, bien sûr, je vous en prie.
Et une bénédiction pour l'Afrique. J'aime ça parce que j'ai envie de dire, pas juste pour l'Afrique, mais pour l'ensemble de l'humanité. Il y a un projet de développement, il y a un concert de service en Afrique qui s'appelle Orange, qui est aussi dans l'Orange, qui donne un libre accès au projet Wikipédia sans prendre de renforcement. Nous, ça fait des années qu'on essaie d'imprimer ça sur des CD, on prend un peu les systèmes de le problème de pas toujours des bras d'ordinateur, ça sur des QVS, toutes sortes de méthodes de diffusion. Et la seule qui fonctionne, c'est que tous les Africains ont un téléphone cellulaire, la plupart ont un téléphone cellulaire, et ont accès à Wikipédia gratuitement. C'est-à-dire Wikipédia zéro, c'est vraiment un projet super. Puis on a rentré des temps aussi pour le communautaire indien, parce qu'il y a aussi un Wikipédia en écrit. On a besoin évidemment de computeurs, de locuteurs, de lecteurs qui n'ont pas le temps d'accès à Internet, mais qui sont des gens du monde.
Mais hélas, Facebook, ils font aussi la même chose pour Facebook, qui est gratuit pour tout le monde.
Voilà. Alors écoutez, voyez, tous ces actes de micro-résistance qui sont en devenir ou en action nous démontrent qu'il faut rester très optimiste, et nos panélistes nous l'ont montré. Merci de vous joindre à moi pour les remercier.